Le journal, Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour. Un an après, Gênes se souvient, l'effondrement du pont Morandi le 14 août 2018 reste un traumatisme. 43 personnes avaient perdu la vie. Les habitants qui vivaient sous le viaduc ont été déplacés. Témoignages et reportages à Gênes dès le début de ce journal. Escalade verbale et tensions croissantes à Hong Kong. Les policiers ont fait usage hier de gaz poivre contre les manifestants. Ils dévoilent leur tout nouveau camion à eau et surprise, ils sont de fabrication française. Le chômage en France baisse de 0,2% au deuxième trimestre 2019. Les chiffres viennent de tomber. Détails et analyses avec Fabien Cazot. L'état de l'économie française, on en parle avec vos invités Pierre Veille.
Oui, Gilles Berset, qui est professeur d'économie à l'université Aix-Marseille, et Stéphane Carcillo, chef de la division emploi-revenu de l'OCDE, professeur au département économie de Sciences Po. Ils seront nos invités tout à l'heure à 8h20 dans le grand entretien. Vous pourrez les interroger au 01 45 24 7000 vers 8h35.
Elle, en revanche, ne diminue pas. La rougeole, l'OMS dénombre trois fois plus de cas dans le monde par rapport à l'année dernière, en cause une couverture vaccinale insuffisante. Et puis notre conseil cinéma cette semaine, parce qu'il n'y a pas que Brad Pitt dans la vie, Perdrix, une comédie française pleine de tendresse, nous dira Jacqueline Pétrose.
France Inter.
Personne n'a oublié les images spectaculaires et les cris incrédules des témoins. C'était il y a un an, le 14 août 2018, à 11h36, en plein cœur de Gênes, en Italie. Sous une pluie battante, le pont Morandi s'écroulait, précipitant 23 véhicules dans le vide. 43 personnes ont perdu la vie, dont 4 Français. Ce jour-là, Stéphanie a failli faire partie des victimes, en vacances avec son mari et leur fils. Elle a vu le pont s'effondrer à 150 mètres de leur voiture. Un an plus tard, elle reste marquée par cette journée. Elle s'est confiée à Sébastien Baird.
J'y pense tous les jours. Évidemment, j'ai une petite obsession du type googler tous les jours le pont Morandi pour essayer de voir ce qu'il y a comme actualité. Puis j'ai dans mes favoris la webcam qui est braquée sur le pont Morandi en temps réel et je peux vous dire à tout moment à peu près où on est la déconstruction, la reconstruction. Je suis très très renseignée sur le sujet, quoi. Quelque chose que j'ai au quotidien, c'est de la colère, puisque des mois plus tard, j'admets pas et j'admettrai jamais qu'on puisse être en train de circuler sur une autoroute en Europe et qu'un pont comme ça s'effondre devant vous. J'allais dire sans prévenir, mais c'est pas vrai, puisqu'on sait depuis qu'il y avait des signaux et qu'ils ont juste pas été traités, quoi. Moi, il m'est rien arrivé. Je suis quelqu'un à qui il a failli arriver quelque chose, mais finalement, si je résume cette journée, j'ai surtout couru très vite sur un pont et eu très peur. Est-ce qu'on a le droit d'en faire le centre de sa vie et de se dire qu'on va mal, alors qu'en fait, on fait juste partie des gens qui, à cet instant-là, ont eu une chance incroyable? Qui s'est joué à quelques secondes, pardon, il faut juste être content et continuer, quoi.
La bataille judiciaire autour du pont de Gênes ne fait que commencer, avec comme principal accusé la société Autostrade per l'Italia, gestionnaire de ce viaduc routier, propriété de la famille Benetton. L'entreprise est soupçonnée d'avoir privilégié ses bénéfices au détriment de la sécurité. À Gênes, les restes du pont ont disparu du paysage. Un nouvel ouvrage est en cours de construction. La physionomie du quartier a radicalement changé. Il n'y a plus aucune maison sous le pont et les habitants ont été relogés. Antonino Gallofaro est retourné sur place.
Ça ressemble un peu au film d'un pays bombardé. Je ne sais pas, je pensais à Alep en Syrie.
Franco Ravera représente les quelques 566 déplacés du pont Morandi. Il se tient devant un terrain vague où se trouvaient leurs maisons. Elles ont été détruites. La loi interdit désormais toute construction sous les ponts.
Cela fait 62 ans que j'habitais dans cette maison. J'y suis né. Avec moi, il y avait beaucoup d'autres personnes. Pour nous, c'était une habitude de nous voir chaque matin. On s'accompagnait, on restait ensemble.
Avec l'aide de l'État, tous les déplacés ont été relogés. Franco Ravera a choisi le centre, mais la majorité est restée dans le quartier. La route de cette communauté brisée se poursuit et sort de la zone rouge à quelques dizaines de mètres seulement. Dans son garage, Salvatore Scialfo raconte comment il a vécu en endurant la démolition du pont tout juste achevé.
La destruction d'un pont, ça veut aussi dire respirer des choses qui ne seraient en réalité pas conseillées de respirer. En vivant ici, on entend aussi beaucoup de bruit de la démolition. On entend jour et nuit ce marteau-piqueur qui continue de marteler le béton.
Mais malgré tout, la reconstruction du nouveau pont le réjouit. Un vent positif souffle enfin sur les traces du pont Morandi. Dans ce kiosque à journaux, par exemple, on salue la réouverture cette semaine de l'artère principale du quartier qui le reconnecte enfin à nouveau avec le reste de la ville. Gênes, Antonino Gallofaro, France Inter.
Une cérémonie à la mémoire des victimes est prévue à Gênes aujourd'hui, à l'heure de la chute du pont. En présence du président italien, du chef du gouvernement et des leaders du mouvement 5 étoiles et de la Ligue, une trêve dans la crise politique que traverse l'Italie. En France, la catastrophe avait entraîné un audit de tous les ponts, révélant de nombreux ouvrages à surveiller. Le point complet est à retrouver sur notre site franceinter.fr.
Il est 8h05, le journal. Corinne Audouin. Corinne, aux États-Unis, Placido Domingo est accusé d'agression et de harcèlement sexuel par 9 femmes.
Oui, l'opéra de Los Angeles a décidé d'ouvrir une enquête contre son célèbre directeur. Ces femmes ont raconté à l'agence américaine AP des baisers forcés, des attouchements, des appels insistants imposés par le chanteur lyrique. 7 disent que leur carrière s'est arrêtée après leur refus. Certains faits remontent aux années 80. 2 salles à Philadelphie et San Francisco ont annulé des récitals de Placido Domingo prévus à la rentrée. Le chanteur âgé de 78 ans dénonce des allégations troublantes et inexactes. Et puis les premières sanctions tombent après la mort en prison de Jeffrey Epstein. Le directeur du centre pénitentiaire de Manhattan a été muté, 2 employés suspendus. L'homme d'affaires américain y était incarcéré dans l'attente de son procès pour des agressions sexuelles sur mineurs. Malgré un risque suicidaire avéré, la surveillance renforcée dont il faisait l'objet avait été levée. L'escalade verbale continue à Hong Kong. Ce matin, Pékin dénonce des agressions quasi-terroristes contre des Chinois dans le territoire autonome. Sur place, la situation est revenue à la normale à l'aéroport. Mais hier, des policiers ont utilisé pour la première fois du gaz poivre contre les manifestants. Les forces anti-émeutes ont également dévoilé leur nouveau camion à lanceur d'eau, jamais utilisé jusqu'à présent. Et surprise, c'est une entreprise française qui les a fournis. Sarah Guibaudot.
Ce sont 3 camions blancs et rouges massifs équipés chacun de 3 canons à eau d'une portée de 50 mètres. Ils ont été livrés l'année dernière. La PME bretonne qui les fabrique a racheté une usine de Saint-Nazaire spécialisée jusque-là dans les camions de pompiers. Mais le groupe cherche à se diversifier et le marché international de la sécurité est en forte croissance. Les canons à eau ne sont pas considérés comme des armes, donc pas soumis à des restrictions à l'export. Pourtant, Amnesty International a mis en garde la police de Hong Kong. Ce ne sont pas des jouets, insiste Julia Cornalba, la responsable Chine.
Les canons à eau peuvent être mortels si utilisés dans des endroits confinés, si utilisés à bout portant, si mal utilisés. Dans un endroit en fait aussi densément peuplé que Hong Kong, les dommages peuvent être assez conséquents.
Le Cerberus, c'est son nom, peut aussi projeter un produit colorant, procédé qui inquiète l'association.
Il y a des tests qui sont faits avec justement cette teinture qui serait mise dans le liquide des canons à eau afin de marquer les manifestants. Ça pourrait permettre aux autorités d'inquiéter ou de placer en détention de manière injustifiée les individus qui ont été ciblés.
Le 18 juillet, le Parlement européen a invité les États membres à contrôler les exportations pour empêcher la Chine d'avoir accès à des technologies utilisées pour violer les droits fondamentaux.
Sarah Guibaudot. Et puis, ils viennent juste de tomber les chiffres du chômage en France pour le deuxième trimestre 2019. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Chef du service économie à France Inter. Un taux de chômage qui poursuit sa baisse.
Oui, une baisse qui confirme la tendance enregistrée sur les précédents trimestres. Le taux en France s'établit ce matin à 8,5% de la population active, moins 0,2% par rapport au premier trimestre 2019. Une tendance à la décrue, donc baisse très progressive, mais bien réel, le chômage est au plus bas depuis 10 ans, avec une diminution en particulier, bonne nouvelle, chez les jeunes, les moins de 24 ans, moins 1,5%, avec une baisse encore un peu plus marquée chez les jeunes femmes. En revanche, quasi-stagnation chez les salariés plus âgés, les 50 ans ou plus, moins 0,2%, c'est une très faible baisse. Et ce n'est pas franchement une bonne nouvelle au moment où on se prépare à une nouvelle réforme des retraites et où on envisage donc de prolonger encore un peu plus longtemps les carrières professionnelles. Tous âges confondus, les créations d'emplois ont plutôt tendance à se faire sur des postes à temps complet, plus 0,8%. Alors que la part des emplois à temps partiel recule, elle, de 0,7% sur un an.
Merci Fabien Cazot, on revient sur tous ces chiffres dès 8h20.
Corinne Audouin, la suite de votre journal à 8h09, suite de notre série sur l'état des partis politiques. On s'intéresse ce matin au Rassemblement National.
Comment se porte le parti de Marine Le Pen après sa victoire aux européennes et à 8 mois des municipales? Eh bien, c'est le statu quo, Maxence Lambrecq.
Le paquebot Le Pen garde son rythme de croisière. Aux commandes, Marine Le Pen a repris du gaz galon depuis les européennes en redevenant la première opposante à Emmanuel Macron. Et autour d'elle, les matelots sont un peu plus nombreux, les adhésions repartent à la hausse. En cabine, en revanche, les portes continuent de claquer avec sa nièce, Marion Maréchal, qui prépare déjà sa rentrée politique et un nouveau voyage aux États-Unis. Avec son père, Jean-Marie Le Pen, qui s'apprête mi-septembre à publier le tome 2 de ses mémoires, dans lequel il justifiera tous ses vieux dérapages. Pendant que sur le pont, on prépare les municipales, Perpignan, Lens, Denain, Carpentras, Frontignan, le RN espère gagner fin mars une vingtaine de villes dans ses bastions. Toutes les investitures ont déjà été validées. Reste à décrocher le ralliement de quelques élus de droite et de gauche pour créer une dynamique. Mais la mer reste agitée. À l'horizon, toujours des problèmes financiers. Le RN doit bientôt rembourser son prêt russe de 9 millions d'euros. Et en soute, le feuilleton judiciaire continue avec cet automne un procès sur le financement des campagnes de 2012 à 2015. De quoi polluer la course des municipales.
Alerte à la rougeole. Le nombre de cas dans le monde a quasiment triplé par rapport à l'année dernière. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'annonce. 360 000 cas entre janvier et juillet 2019 contre 130 000 sur la même période en 2018. En cause, une couverture vaccinale trop faible dans de nombreux pays. Daniel Messager.
La rougeole devait être éliminée en 2020, c'était l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé. Or, il s'agit des chiffres les plus élevés jamais enregistrés depuis 13 ans. Les pays africains paient un lourd tribut, comme en République démocratique du Congo, des épidémies flambent au Cameroun, en Angola, au Tchad. Mais les pays de l'Est ne sont pas en reste, Ukraine, Kazakhstan, l'Asie est touchée aussi comme aux Philippines ou en Thaïlande. Trop peu de personnes sont vaccinées face à cette maladie, 10 fois plus contagieuse que la grippe. Une seule personne contaminée peut en infecter une quinzaine. La plupart de ces pays souffrent de mauvaises conditions sanitaires. Mais en Occident, les épidémies sont dues à des refus de la vaccination, comme ce fut le cas à New York au printemps dernier dans la communauté juive ultra-orthodoxe, ou chez les anti-vax qui avancent des contre-vérités scientifiques. En France, les jeunes adultes sont souvent mal protégés. Il faut les 2 injections de vaccin pour être à l'abri. Et contrairement aux idées reçues, la rougeole ne touche pas que les enfants. Les complications sont plus fréquentes et plus graves chez les adultes.
Et puis c'est une information de France Bleu Gironde. Un cas de rougeole s'est déclaré parmi les spectateurs du festival Garo Rock à Marmande, un festival qui s'est tenu du 27 au 30 juin. Les organisateurs appellent les festivaliers à vérifier leur vaccination auprès de leur médecin traitant. Connaissez-vous la Freikörperkultur, la culture du corps libre, très populaire en Allemagne, mais selon les chiffres nationaux, le nombre de naturistes a baissé de moitié en 40 ans, tout fout le camp. Pourtant à Berlin, les adeptes du bronzage intégral sont encore nombreux. Ludovic Piétenu les a rencontrés.
Difficile de penser que la tendance est à la baisse quand on se rend dans un parc à Berlin ou aux alentours ou comme ici au bord d'un lac. Les Allemands n'ont aucun mal à se mettre tout nu. C'est même un plaisir pour ce couple de septuagénaires, Ingrid et Frank.
FKK. Le naturisme, le FKK, c'est comme vivre une autre vie. Du temps de l'Allemagne de l'Est, c'était notre seule petite liberté.
Pour moi, se baigner nu, c'est normal. Ici, la sexualité n'a pas sa place. C'est un endroit où chacun prend soin de l'autre, où une sorte d'amitié s'exerce entre nous. Ici, chacun veut nager en toute simplicité.
Et c'est mieux tout nu. L'eau est beaucoup moins froide que quand vous êtes en maillot.
Au bord de ce lac, les adeptes du FKK, en allemand Freikörperkultur, pour la culture du corps libre, ne sont pas que des retraités. Ils viennent souvent depuis des années en famille. Et donc la tradition se perpétue chez les jeunes, même si ce sont eux qui déserteraient de plus en plus ces espaces naturistes, selon un sexologue allemand, auteur d'un récent livre sur le sujet. Il serait selon lui plus prude, en cause aussi selon lui, une société plus diverse qu'avant, qui n'aurait pas la même relation avec la nudité. Si le nombre d'adhérents est officiellement tombé à 32 000, le naturisme ne se meurt pas, nul besoin d'une carte de membre pour se mettre à nu. Au bord du Lipnitzsee, au nord de Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Et sans transition aucune, il n'y a pas que Brad Pitt dans la vie, habillé ou tout nu, à côté du très attendu Once Upon a Time in Hollywood,
Leonardo aussi.
Le film de Tarantino avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Eh bien, il y a aussi une comédie française qui pourrait sortir son épingle du jeu, Perdrix de Erwan Leduc, au générique Swan Harlow et Fanny Ardant. Une comédie amoureuse avec dans le rôle du roi de cœur, c'est pas banal, un capitaine de gendarmerie, Jacqueline Pétrose.
Est-ce que la vie que vous vivez est véritablement la vôtre? Eh bien, l'amour. Le vrai, il règle ça tout de suite.
C'est une comédie romantique différente, oscillant avec bonheur entre humour, amour et surréalisme. Juliette, de passage dans les Vosges, se fait voler sa voiture avec tous les carnets où elle consigne sa vie depuis son adolescence. La jeune femme est rebelle, sans gêne et insolente. Pierre Perdrix, lui, est capitaine de gendarmerie dans ce coin plutôt calme. Pétri du sens du devoir, il est en charge de sa mère, veuve inconsolable qui parle d'amour dans une émission de radio associative, son frère, plaqué par sa femme, et sa nièce, une ado rêvant d'échapper à cette tristesse. Juliette, évidemment, va semer le désordre.
On a dû te chercher. Elle est dangereuse.
Et pour qui ?
Si tu nous abandonnes, je te le pardonnerai jamais.
En fait, c'est vous, mes démons. Vous êtes mes démons, chérie. Qu'est-ce que je serais sans vous ?
Des gendarmes en plein spleen, un gang de nudistes, un portrait très moche et une histoire d'amour du bout des doigts, Erwan Leduc réussit un film doux-amer, aux accélérations efficaces et surprenantes. Les familles envahissantes et les névroses sont épinglées. Vis ta vie et sois heureux. Perdrix est un film touchant et réjouissant.
Voilà, ça s'appelle Perdrix de Erwan Leduc avec Stéphanie Fromontin. On aimerait bien avoir la voix de Fanny Ardant quand on sera grande un jour.
Arrive par l'ouest.
C'est vrai, vous avez raison. Corinne Audouin, c'était le journal de 8h.